clothes you wear and the food you eat. Man, how life was going sweet. You went to school and you learned a lot since you was a tiny tot. So please do not forget, I say, how all these things you come to get. Since you was in your cradle, your mother and your father was responsible. Remember when you couldn't even walk? Remember when you couldn't even talk? I say, remember who? Who used to wash your clothes for you? Who used to wipe your nose for you? Who used to hug and kiss you? I say, remember who? Who used to change your diaper? Who used to find your supper? Don't forget, was your mother and father. Whoa. I. Remember when things was going fine, with not a worry on your mind. And when things wasn't so good with you, who was the first ones you would run to? So how could you forget? And up to now you can't pay back yet. Try from now till forever, you could never pay back your mother and father. Remember when you couldn't even walk? Remember when you couldn't even talk? I say, remember who? Who used to wash your clothes for you? Who used to wipe your nose for you? Who used to hug and kiss you? I say, remember who? Who used to change your diaper? Who used to find your supper? Don't forget, was your mother and father. It have some fathers ain't good at all. They never mind you when you was small. But never mind how your father bad. You shouldn't take it on too hard. Try to understand what would be your position. For if it wasn't for your daddy, you would never, never have a dear mommy. Remember when you couldn't even walk? Remember when you couldn't even talk? I say, remember who? Who used to wash your clothes for you? Who used to wipe your nose for you? Who used to hug and kiss you? I say, remember who? Who used to change your diaper? Who used to find your supper? Don't forget, it was your mother and father.
Les enfants, un peu de radio?
Oui.
Vous voulez écouter de la musique? Ok.
Vous écoutez HDR 99.1, le mix de toutes les cultures.
Attention, listen, find yourself a new addiction. This world we're living in is a fiction. I lose sight of the vision. Now money is definition. Showing off the religion, lifestyle is Caucasian. Weed in my smoke when they got me stressing. Never been in court while my flow's assassin. I say life is a blessing, even if they're enslaving. Should I be wedding or misbehaving? I don't know, but for sure I'm gonna kick in the door. Or die trying to even the score. And I pull out the sword, walking forward the storm. Fixing the side of norm. This is a bad job to do it, and I won't conform. But I can't confirm that hip hop come first. I do best, but these MCs do worse. I got skills, but my skin got cursed. Will outlive it to quench my thirst. Get out of the way when I speak my verse. Fuck! This is a bad job that I'm doing, yeah. This is a bad job that I'm doing, ayy. This is a bad job that I'm doing. Bad job that I'm doing. Focus when I smoke this. Fading when I broke this. What the fuck happened? Too hard to reminisce. I guess I've wasted so much time. Bitch, I'm undercover. Fucking stare like a king without a crown. A sun without a shine, ayy. Hope and that I don't have a coach. I suppose I don't have a goal. It's all about having the instant life. It's just cutting your souls. Maybe I talk shit. Talk what? You're smart to be trapped. I just feel like I should say something to impact. There's a war going on inside. Nobody's safe from the future.
journey's a past yet to come. I'm a rolling stone, going back where I started from. Life is a small cycle. I try to overcome, but I'm done, yeah. In the nigga that you want, yeah. The claiming freedom on a smartphone. Like a ghost, I'm gonna haunt you. Ghost, I'm gonna hurt you. There's nothing but you can do. And you know it.
De vive voix, c'est du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
RFI, il est 13h à Paris, 11h à Dakar. Tout de suite, vous retrouvez Anne Cantner pour RFI Midi. Bonjour Anne.
Bonjour Lucie, bonjour à tous. 2h30 ensemble, le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux sur tous les continents. Nous parlons ce lundi 8 juin, de l'Iran qui menace d'aller plus loin encore après des frappes contre Israël hier soir et cette nuit, de la riposte israélienne contre l'avis de Donald Trump qui appelle les deux pays à arrêter de tirer, ce sont ses mots. Pourquoi une reprise du conflit maintenant? Quelle est la stratégie de l'Iran? Nous poserons ces questions à notre invité dans un peu plus d'une heure. Les armes ne peuvent jamais mener à une paix authentique et durable, voilà ce qu'a dit le pape ce matin à propos de ce conflit lors d'un rare discours devant les parlementaires espagnols. Il a parlé aussi d'immigration, défendant des positions proches de celles du Premier ministre. Et nous verrons dans 10 minutes dans quelle mesure ça peut servir politiquement à Pedro Sanchez, fragilisé en ce moment par les scandales de corruption à répétition dans son entourage.
RFI.
Au sommaire également les élections en Arménie et la victoire moins large qu'espérée du Premier ministre pro-européen qui va devoir composer avec un Parlement en grande partie tourné vers la Russie. On en parlera dans la Fabrique du Monde. Et on reviendra également sur la présidentielle au Pérou. Les résultats provisoires sont serrés. Pour l'instant, c'est le candidat de gauche, Roberto Sanchez, qui est en tête. Et là aussi, même si sa victoire se confirme, ce ne sera pas facile parce que le Parlement est dominé par le parti de sa rivale, Keiko Fujimori. Nous appellerons notre correspondant à Lima juste après 13h, temps universel. L'actualité en France aussi, les questions et la défense du ministre de la Justice après le meurtre d'une enfant de 11 ans, vraisemblablement tuée par un homme déjà signalé et objet de plainte pour viol sur mineur. On en parle dans une demi-heure, on en parlera aussi avec le député La France Insoumise, Adrien Clouet. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI Midi.
Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Anne et bonjour à vous qui nous écoutez.
Avec le bruit des bombes qui retentit de nouveau au Moyen-Orient.
Deux mois jour pour jour après sa conclusion, le cessez-le-feu en Iran semble donc ce midi voler en éclats. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Arthur.
Du service international de RFI, on fait le point avec vous. C'est donc tard, hier soir, que l'Iran a lancé de nouvelles frappes contre Israël.
Oui, les échanges de frappes ont débuté dimanche soir vers 22h, heure locale. L'Iran lance près de 30 missiles balistiques sur Israël, selon Tel Aviv. Parmi les cibles, la base aérienne de Ramat David, près de Nazareth dans le nord, d'où auraient décollé les avions qui ont visé précédemment la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah faisant 2 morts et 20 blessés. L'Iran avait explicitement menacé Israël de frappes sur Beyrouth. Tôt ce lundi, Israël riposte en frappant des cibles militaires iraniennes à Tabriz dans le nord-ouest, Ispahan dans le centre, ainsi que le site pétrochimique de Marchar dans le sud-ouest, qui a été endommagé selon les médias iranien. Des explosions ont également été rapportées à Téhéran. Côté israélien, de nombreux missiles auraient été interceptés. Les dommages seraient limités. Aucune victime n'a été signalée à ce stade par les deux camps. Téhéran a prévenu qu'il répondrait avec force en cas de nouvelle attaque. Cette reprise des hostilités, quoique limitée, Arthur, et malgré les appels de Donald Trump à Israël à ne pas riposter, pèse sur les négociations irano-américaines et fait craindre une nouvelle extension du conflit.
Yelena Tomic, merci à vous. Donald Trump qui appelle ce midi après-midi, effectivement, l'Iran et Israël a cessé de tirer. Le locataire de la Maison-Blanche qui raille aussi l'ignorance et la stupidité qui freinent, selon lui, le processus de paix. Les deux pays cherchent tout de même à conclure un cessez-le-feu immédiat, selon le président américain. La situation volatile au Moyen-Orient, elle est à suivre minute par minute sur notre direct à la une de notre site RFI.fr. Les armes peuvent imposer un silence temporaire, mais jamais elles ne construiront une paix authentique et durable. Ça, c'est ce qu'a dit ce matin le pape devant le Parlement espagnol, Léon XIV, qui demande aussi vérité, justice et réparation face au fléau des abus sexuels dans l'Église. On va y revenir longuement dans une dizaine de minutes.
La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne appellent de concert à un dialogue direct entre la Russie et l'Ukraine.
Conclusion d'une réunion hier à Londres autour de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien avait soumis l'idée il y a quelques jours dans une lettre ouverte, idée rejetée par Moscou. Vladimir Poutine disait ne pas y voir d'intérêt tant qu'un accord de cessez-le-feu n'aura pas été négocié.
La Russie qui accuse l'Union européenne d'ingérence dans les élections en Arménie.
Réaction du Kremlin après la victoire de Nicole Pachignan aux législatives. Le Premier ministre sortant qui opère depuis plusieurs années un rapprochement avec les 27. Son parti, le Contrat civil, obtient un peu plus de 49% des voix. Ce n'est pas le raz-de-marée escompté, puisqu'il n'a pas la majorité nécessaire pour réformer la Constitution. Désormais, Nicole Pachignan est sur une ligne de crête entre sa dépendance à la Russie et sa volonté de se rapprocher de l'Occident. C'est ce que nous dit Tigran Yegavian, directeur de recherche pour la revue Conflit.
La question, c'est de savoir jusqu'où il peut aller. Pachignan, ce qu'il fait depuis des mois, des années, c'est tester la Russie. Il teste la Russie parce qu'il sait la Russie affaiblie. Il sait que la Russie n'a plus les mêmes leviers qu'avant pour imposer ses vues par la force. Et aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il a tendance à relativiser la dégradation des relations, en disant que c'est juste une diversification. Ce n'est pas un abandon, une rupture avec la Russie. Le problème, c'est que la Russie reste ferme sur ses positions, c'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité entre rejoindre l'UE et maintenir l'adhésion à l'Union eurasiatique. C'est clair que la Russie n'acceptera pas ça, c'est vraiment une ligne rouge. La question, c'est est-ce que la Russie dispose encore de leviers nécessaires pour empêcher ce rapprochement, sachant que là, il y a une mobilisation assez claire des Européens. Je pense que la Russie est très, très fébrile.
Propos recueillis par Sofia Katsenkova. On votait aussi hier au Kosovo. Là aussi, le Premier ministre sortant sort vainqueur. Mais son score est en fort recul par rapport aux élections de 2021. Il n'obtient pas suffisamment de sièges au Parlement pour former seul le prochain gouvernement.
On attend, en revanche, toujours les résultats de la présidentielle au Pérou.
Ils sont encore partiels et le décompte pourrait prendre plusieurs jours. C'est très serré pour le moment, mais Roberto Sanchez, le candidat sortant de gauche, semble légèrement en tête face à sa rivale de droite autoritaire, Keiko Fujimori. Même si les appels à la prudence se multiplient, les partisans de Roberto Sanchez n'ont pas attendu pour célébrer les premiers résultats. Reportage à Lima, Martin Chabal.
Prudence ou pas, dans le centre de Lima, les soutiens de Roberto Sanchez ont fêté les résultats partiels avec des feux d'artifice. Parmi ceux venus célébrer l'annonce des résultats en faveur du candidat de gauche, Gabi est déjà persuadée de la victoire.
Je suis persuadée que les résultats ne vont pas changer. Je pense même que Roberto Sanchez va creuser l'écart.
Pour ses électeurs, cette possible victoire serait une promesse de rupture avec plus de 20 ans de domination des élites politiques de Lima, dominées en partie par Keiko Fujimori. Pour Neofito, Roberto Sanchez président, c'est en finir avec des dirigeants corrompus et déconnectés de la réalité des Péruviens.
Sanchez, au moins, c'est un homme qui vient d'en bas de l'échelle, comme nous. Avec lui, les choses vont changer. La démocratie sera pour tout le monde.
Mais il y a aussi de la méfiance, comme José Fernando, qui a déjà cru en un candidat de gauche et a été déçu.
Pourvu qu'il ne soit pas un autre Ollanta Humala qui a trahi les causes populaires de gauche.
Surtout que Roberto Sanchez, si les résultats se confirment, devra gouverner avec un parlement hostile et un pays coupé en deux, comme en témoigne le mince écart entre lui et Keiko Fujimori. Martin Chabal, Lima, RFI.
Il est 13h08 à Paris. La suite de votre journal, Arthur. En France, où Patrick Bruel est en garde à vue depuis ce matin.
Le chanteur est visé par une dizaine de plaintes pour viol et agression sexuelle. 13 victimes présumées identifiées à ce stade par le parquet de Nanterre. La garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures.
En France, toujours des milliers de personnes attendues ce soir devant des tribunaux dans plusieurs villes du pays.
Rassemblement à l'appel d'organisations de protection de l'enfance en réaction à l'affaire Liana, du nom de cette petite fille retrouvée morte dans un silo agricole. Le principal suspect dans cette affaire était visé depuis plusieurs années par des soupçons de pédocriminalité, mais avait jusque-là échappé à la justice. Le ministre de la Justice, justement, réunit ce matin les procureurs généraux. Gérald Darmanin a demandé une revue de toutes les plaintes pour viol et attouchement concernant des enfants.
Il y a 70 000 plaintes connues des procureurs de la République pour lesquelles il y a une infraction délictuelle ou criminelle qui touche les mineurs. Donc je demande un état de fait, tribunal par tribunal, de toutes ces plaintes. Avant le 31 juillet, j'aurai 3 à 4 rendez-vous par jour avec ces procureurs généraux et on fera le point avec eux si dans d'autres affaires, il y a des défaillances structurelles de la maison de justice ou de l'État en général. Un manque d'experts psy, par exemple, un manque de médecine légale, par exemple, un manque de PJ, par exemple, ou de personnes, notamment les assistants de justice, faire le travail, par exemple.
Voilà Gérald Darmanin qui écarte dans le même temps toute démission. Il considère que les défaillances liées à cette affaire ne tenaient pas à ses instructions.
Il s'apprête à quitter sa révérence après 14 ans à la tête des Bleus. Du foot pour refermer votre journal.
Et le dernier match, Anne, de Didier Deschamps sur le sol français. Avant de s'envoler pour les États-Unis et le Mondial, Dédé et les Bleus jouent ce soir leur ultime match de préparation. Ce sera Lille face à l'Irlande du Nord. Et c'est donc au stade Pierre-Mauroy que Didier Deschamps dirigera son tout dernier match en France. Salut Diouf.
L'aventure avait aussi commencé dans le nord de la France pour Didier Deschamps. Mais cette fois-ci, plus au sud-ouest de Lille, au Havre pour être précis. Une victoire 2-0 contre l'Uruguay en 2012 qui a marqué une longue série de succès. Sur les pelouses de l'Hexagone, Dédé, comme on le surnomme, aura vécu des moments historiques. Il y a eu la qualification pour la Coupe du Monde 2014 contre l'Ukraine après avoir remonté un retard de 2 buts. Puis l'Euro 2016 avec notamment cette demi-finale remportée face à l'Allemagne à Marseille. Au Stade de France, Didier Deschamps a aussi connu l'un des plus beaux moments de son parcours. En septembre 2018, il y présente la Coupe du Monde gagné en Russie, 20 ans après le sacre de 1998, remporté cette fois-ci en tant que capitaine. Mais il y a aussi des moments plus tristes face au même adversaire le 13 novembre 2015. Un match amical au Stade de France disputé alors que des attentats frappaient les abords de l'enceinte. Une soirée tragique qui reste gravée dans la mémoire du football français. Ce soir, à Lille, il saluera pour la dernière fois le public. Mais dans le football, les plus belles sorties se font parfois avec une coupe entre les mains. Un trophée en or qui, s'il revenait à la France pour la 3e fois de son histoire, offrirait à Dédé un dernier tour d'honneur avant les adieux.
Et Francis, l'enfance Irlande du Nord, coup d'envoi à 19h10, temps universel. Le mondial, ça démarre dans tout juste 3 jours. Match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, que vous pourrez suivre en intégralité sur RFI si vous nous écoutez en Afrique. En tout cas, les supporters mexicains, eux, sont plus que prêts, Anne. Des milliers de personnes se sont réunies ce week-end à Mexico et ils ont battu le record du monde de la Ola, pas de détails, mais elle était censée mesurer 2 km.
Bah, j'espère qu'on pourra voir ça sur YouTube. On va pouvoir tous aller vérifier ça dans les prochaines minutes. Merci Arthur. Mais tout de suite sur RFI, c'est la fabrique du monde. Guillaume Nodin, les Européens, salut. La victoire du Premier ministre sortant Nicole Pachinian aux législatives d'hier en Arménie, on en parlait dans le journal. Victoire vue par Emmanuel Macron comme une volonté d'accompagner le rapprochement vers l'Europe. Elle n'est pas large, pourtant, cette victoire. Le Premier ministre va devoir composer avec des partis d'opposition plutôt proches de la Russie. Et cette division, elle est significative parce que l'Arménie, pays petit, pas très peuplé, intéresse beaucoup les puissances des environs, à commencer par la Russie.
Oui, la puissance tutélaire depuis l'époque soviétique et qui s'intéresse toujours de très près au sud du Caucase et l'occupe par exemple une partie de la Géorgie voisine où des pro-russes sont au pouvoir après des élections largement contestées. Moscou a pesé de tout son poids dans l'élection d'hier par la désinformation d'abord en lançant des attaques contre le Premier ministre Nicole Pachinian, des attaques qui ne visent pas son adversaire, l'homme d'affaires russo-arménien Samvel Karapetian, qui veut lui rester restaurer les liens historiques avec la Russie par la menace à peine voilée. Ensuite, le Kremlin a rappelé que, selon son analyse, c'est la volonté de l'Ukraine de se rapprocher de l'Occident qui a entraîné la guerre. Et ce matin, la Russie dénonce les pressions sur l'opposition et l'ingérence électorale de l'Union européenne.
Nicole Pachignan lui a lancé ce qu'il appelle une politique de diversification.
Oui, parce qu'il a bien dû constater que le grand frère russe n'était pas intervenu lors de la guerre du Karabakh en 2023, qui a vu l'Azerbaïdjan envahir le territoire arménien et pousser des dizaines de milliers d'Arméniens à fuir. C'est pour diversifier les relations que Yerevan a accueilli le dernier sommet de la communauté politique européenne et un sommet Arménie-Union européenne de laquelle souhaite se rapprocher le Premier ministre. Et ça, Moscou le voit donc d'un très, très mauvais œil.
Il s'est surtout rapproché des États-Unis.
Oui, l'an dernier, il est allé à Washington serrer la main du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est l'une des 8 guerres que Donald Trump estime avoir réglées. Un accord de paix formel reste toutefois à conclure entre les deux pays. Le président américain, qui a apporté un soutien sans ambiguïté à Nicole Pachignan, en a profité pour lancer la TRIP. Ce n'est pas un plat à base d'abats, c'est l'acronyme anglais de Route Trump pour la paix et la prospérité internationale. Un corridor qui permettrait à terme de relier l'Azerbaïdjan à la Turquie en passant par le territoire arménien et d'accéder par la mer Caspienne aux immenses ressources énergétiques et minières des pays d'Asie centrale, notamment des terres rares indispensables à de nombreuses industries de haute technologie et largement contrôlées actuellement par la Chine. D'ailleurs, lors de sa dernière tournée eurasiatique, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est arrêté une heure à Erevan, le temps de signer des accords, dont l'un sur l'exploitation des terres rares arméniennes.
Il y a un autre pays qui regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt, c'est la Turquie.
Oui, elle y gagnerait une position stratégique. Cette route lui donnerait un accès beaucoup plus simple et direct aux pays turcophones d'Asie centrale, jusqu'aux confins de la Chine. Mais pour cela, encore faudrait-il que le projet de réouverture de la frontière turco-arménienne se matérialise. Les relations entre les deux pays sont toujours difficiles pour des raisons liées notamment au génocide arménien de 1915. Si tout cela se concrétisait, cela redéfinirait la géopolitique de la région et cela permettrait
le mix de toutes les cultures.
2, 1, 0. Vous écoutez Radio HDR, le mix des cultures, le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1 FM.
C'est sur le 99.1 FM.
Sun. breaking them rules. Tweet sexy, get your feet in your ass off. Yeah, you heard that the blast off of a mass of. Yeah, be kicking some dust for inspection. Prince down, it's a must, blood fixing your butt through the burning. Apple hurting, scrabble, turn rebel. Babylon, rebel, babble it on to the reborn. Son of God, yeah, and I heard it. You heard them come to the slate, leave a mark on. Yeah, 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 ultra right, flip, dark, dark. Tweaking on your back on that thing. What's your fiddle? Itching my fiddle. Itching my fiddle. Itching your fiddle. Itching your fiddle. Itch, motherfucker. Now open up your diddle. Pop up master smirking. The people of the herb is lurking. Creatures jerking. Yeah, yeah. You're the damn creatures jerking. Fucking them sounds.
Coming up like a brand new invention. Humping, riding down the theater. Pumping the beat from the O2 Berlin house. Holding that puss, we got them